Vous pouvez reprendre place. Découvrons ensemble le texte biblique prévu pour la prédication de ce dimanche. C'est un extrait de l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 12 à 28. Je lis. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas ? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam, de même tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang, le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle, et il remettra le règne à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit « Dieu lui a tout mis sous les pieds ». Mais il est clair que, dans cette phrase, le mot « tout » n'inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu règnera parfaitement et sera tout en tous. » Frères et sœurs, nous venons d'entendre un texte exigeant, presque déroutant, de l'apôtre Paul. Un texte qui ne cherche pas à rassurer facilement, mais qui nous oblige à penser, à croire et à vivre autrement. Paul aborde un sujet à la fois fondamental et difficile. La résurrection des morts. Ce n'est pas juste un sujet théorique. C'est d'une part un sujet fondamental parce qu'il touche au cœur même de notre foi chrétienne. Vous le savez peut-être, l'événement du premier siècle de notre ère qui va provoquer la naissance du christianisme comme mouvement religieux, c'est la conviction que les disciples avaient de la résurrection de leur maître Jésus. Tout part de cette certitude. Puis, il y a eu l'organisation de l'Église avec notamment les lettres de Paul et des autres. Et c'est seulement après que la vie de Jésus sera racontée à travers les évangiles. D'autre part, le sujet de la résurrection des morts est difficile parce que, si nous sommes honnêtes, il touche au cœur même de notre propre doute, de nos doutes, En vérité, qui parmi nous peut dire qu'il croit facilement à la résurrection? Qui peut dire qu'il ne s'est jamais demandé et si tout cela n'était que des beaux récits, mais rien de réel? Paul va prendre cette question au sérieux. Et il fait quelque chose de remarquable. Il ne l'évite pas. Il ne dit pas non plus qu'il faut croire sans réfléchir. Au contraire, il pousse le raisonnement jusqu'au bout. Il dit « Si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vide. » Cela veut dire sans contenu, sans vérité, sans fondement. Autrement dit, Paul ne nous laisse pas une foi confortable. Il nous dit soit la résurrection est vraie, soit tout s'effondre. C'est une parole rude, mais c'est aussi une parole honnête. Une parole honnête qu'il n'adresse pas à n'importe qui. Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Ce ne sont pas des non-croyants, mais des personnes déjà convaincues par le message de l'Évangile. Ils avaient pour particularité d'être influencés par la culture grecque, notamment par les idées des grands philosophes. Ils croyaient notamment que l'âme est bonne, mais le corps est plutôt une prison dont il faut se libérer. Dans ce contexte-là, beaucoup pouvaient accepter que le Christ soit vraiment vivant auprès de Dieu, tout en trouvant difficile, voire complètement absurde, de croire que les morts ressuscitent avec un corps. Leur doute ne venait pas d'un refus de la foi chrétienne, mais d'une manière grecque de penser le salut qui ne donnait pas du tout de place au corps physique. Paul va s'opposer fermement à cette idée, parce que pour lui, comme pour l'Évangile, le salut ne concerne pas seulement l'âme, il est une transformation complète de l'être humain, et sans cela, la foi chrétienne perd tout son sens. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus a pris soin du corps des personnes qu'il rencontrait, en guérissant les malades, en nourrissant les affamés. Il n'a pas seulement prêché un royaume de Dieu invisible. Il nous a montré comment annoncer l'Évangile aujourd'hui. Prendre soin de l'âme, mais aussi prendre soin du corps. La résurrection du Christ ne met pas à la poubelle le corps physique de Jésus. Ce corps qui était mortel a aussi un avenir glorieux. Les évangiles nous montrent bien que la résurrection n'est pas une simple réanimation. C'est là la nuance. Jésus ressuscité n'est pas un fantôme. Il n'est pas un revenant qui va reprendre son ancienne vie. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est un avenir glorieux. C'est pourquoi d'ailleurs l'apparence du Christ et tout autre après la résurrection, Marie de Magdala voit un jardinier. Quand il voit Jésus, il voit un jardinier. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs et ceux qui étaient à la pêche ne voient qu'un homme lorsqu'ils voient le ressuscité. Et ils le reconnaissent à partir de ses paroles et de ses actes, bien plus que par son aspect physique. C'est pourquoi aussi ce sont les croyants seulement qui attestent la résurrection et font l'expérience des apparitions dans les évangiles. Ce ne sont pas les non-croyants qui vont attester et qui vont voir cette résurrection et qui vont faire l'expérience des apparitions, ce sont les croyants. Et c'est ce corps nouveau, ce corps ressuscité qui vit l'ascension. Paul nous apprend que Dieu ne nous sauve pas que en partie. Il nous sauve entièrement, y compris notre corps. Mais cette résurrection, frères et sœurs, n'est pas un retour en arrière. Nous ne sommes pas des revenants. Nous ne sommes pas des fantômes. Mais nous allons ressusciter, comme l'Évangile l'annonce à la fin des temps. C'est peut-être là où les Corinthiens n'ont pas su comprendre la spécificité de la résurrection telle qu'enseignée par les Évangiles. Ils l'ont peut-être confondue à une réanimation, une confusion qu'il nous arrive encore de faire aujourd'hui lorsque nous doutons de cet événement fondateur de la foi chrétienne. La résurrection n'est pas une simple réanimation. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul nous rappelle cette évidence. Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts. Ce n'est pas juste une idée ou une hypothèse, c'est un événement, quelque chose que Dieu a fait. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui ? Première chose, cela change notre manière de voir la vie. Si la résurrection est vraie, alors notre vie ne se réduit pas à ce que nous voyons. Elle ne se limite pas, à ce que nous réussissons ou ce que nous perdons. Nous vivons dans un monde où tout pousse à croire que seul compte la performance, la réussite, l'image que nous donnons. Mais Paul nous dit « Votre vie est plus grande que cela. Elle est inscrite dans un horizon qui dépasse la mort. » Cela, chers frères et sœurs, ne nous éloigne pas du réel. Au contraire, cela nous libère. Cela nous libère de l'obsession de réussir à tout prix. Cela nous libère de la peur de perdre. Cela nous libère du regard des autres. Deuxième chose, cela change notre manière d'agir. Si la résurrection est vraie, alors rien de ce que nous faisons dans l'amour n'est perdu. Paul dira un peu plus loin, « Votre travail n'est pas inutile ». Cela veut dire que chaque geste compte, chaque parole, chaque acte de justice, de patience, de bonté, chaque chose que nous faisons compte. Même si cela semble petit, même si cela semble inefficace, même si personne ne le voit, dans un monde où tout doit être rentable, visible, mesurable, cette parole est révolutionnaire. Elle nous dit « ce qui compte vraiment échappe souvent à nos critères ». Troisième chose, chers frères et sœurs, cela change notre manière de voir les autres. Si Dieu veut être tout en tous, cela veut dire que chaque personne a une valeur infinie. Pas seulement ceux qu'on qualifie de forts, de talentueux ou valides, mais aussi les fragiles, les malades, les oubliés. Dieu sera tout en tous, veut dire que tout sera accompli, que tout sera réuni, que rien ne sera perdu de ce que Dieu a voulu. Ce n'est pas une fusion qui efface les différences, c'est une plénitude où chacun trouve sa place. La résurrection nous apprend à regarder autrement. Elle nous apprend à voir en chaque être humain quelqu'un que Dieu ne lâche pas, même face à la mort. Quatrième chose, frères et sœurs, cela change notre manière de vivre le temps. Nous vivons entre deux moments, la résurrection du Christ et l'accomplissement final. Entre les deux, il y a un temps parfois difficile, un temps de lutte. Paul le sait, il ne le nie pas, il ne nie pas la souffrance, il ne nie pas les contrariétés. Mais il dit, ce temps a un sens, ce n'est pas un temps vide, c'est un temps où quelque chose grandit, un temps où la vie de Dieu travaille en nous, souvent de manière invisible. Alors, frères et sœurs, que faire ? Que faire de tout cela ? Peut-être simplement ceci, osez vivre dès aujourd'hui à la lumière de la résurrection. Cela veut dire choisir la vie là où tout pousse au découragement. Choisir la confiance là où tout invite à la peur. Choisir l'amour là où la haine semble plus forte. Cela veut dire croire que notre existence a un poids éternel, même dans ses gestes les plus simples. Cela veut dire refuser de réduire notre vie à ce qui passe. Et cela veut dire peut-être aussi accepter que Dieu travaille déjà en nous, même quand nous ne voyons rien. Parce que la résurrection n'est pas seulement une promesse pour demain, elle est une force pour aujourd'hui. Frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, en cette période de l'année où nos jardins reprennent vie, nous voyons bien que rien ne pousse dans le bruit, ni dans la précipitation. La vie revient discrètement, presque en secret, comme si la terre travaillait en silence. Ce qui était enfoui, oublié, apparemment perdu, commence tout doucement à percer. Et pourtant, il a fallu du temps, du froid, de l'attente. La résurrection du Christ ressemble à cela. Une vie plus forte que la mort, mais qui ne s'impose pas, qui se donne et qui grandit. Peut-être que dans nos vies aussi, quelque chose est encore enfoui, en attente, fragile. Peut-être que tout n'est pas encore visible. Mais Pâques nous apprend à faire confiance à ce qui est en train de naître, car Dieu n'abandonne rien de ce qu'il a semé, et ce qui aujourd'hui semble caché est déjà promis à la vie. Amen.